Bonjour, je suis Julie Le Gall.
Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
Passionnés de wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
Le wholesale n'aura plus de secret pour vous.
Dans cet épisode, nous sommes sur le Who's Next, premier salon de prêt-à-porter de l'année 2022. La Fédération Nationale de l'Habillement nous a invités sur son stand pour rencontrer ses membres et nous expliquer son rôle. Excellente écoute! Bonjour Pierre, bienvenue sur le podcast Wholesale is not dead, j'espère que vous allez bien.
Bien écoutez, on va bien parce que les indépendants sont de nature résiliente, ils continuent, ils se battent pour que le commerce de proximité puisse vivre et surtout que leur passion, quand c'est la mode, puisse continuer. Voilà. Moi, je suis designer de mode depuis 1991 en mode masculine. J'ai ouvert une première boutique à Saint-Germain-des-Prés et puis là, j'ai cette boutique là depuis 2002 en plein Marais où je peux présenter donc les collections que je crée avec mon assistant depuis maintenant pas mal d'années et aussi à l'exportation. Bien évidemment, avec la résurgence de la crise sanitaire et le début de la crise, début 2020, tout ça s'est quand même très franchement ralenti. Donc on traverse une période qui est difficile, c'est un challenge, il faut pouvoir le traverser.
Et Pierre, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le concept Pierre Talamont ainsi que le marché parisien aujourd'hui ?
Alors, moi, mon concept, c'est une garde-robe masculine revisitée, hein, qui a un vrai twist, si je puis dire, au niveau du style et de la coupe. On travaille énormément la couleur, les détails, le graphisme. On crée nos propres imprimés. Nous sommes uniquement en fabrication européenne avec tissu italien, tout est européen. Je faisais, quand c'était encore possible, une fabrication 100% française. Malheureusement, ça n'est plus on n'a plus la possibilité de faire ça aujourd'hui parce qu'il y a ce qu'on appelle un coût minute qui est beaucoup trop élevé. Mais en tout cas, voilà, rien n'est fait en Chine, tout est fait en Europe. Et ça, j'y tiens.
Quand vous parlez, Pierre, pardon, du « avant c'était possible en France et maintenant beaucoup moins », à peu près en quelle période ou quelle année ça a changé ?
Alors, je dirais qu'il y a 20 ans, il y avait des gros sites de production à Cherbourg, en Vendée, aux Herbiers, etc. Et petit à petit, les choses se sont détériorées.
Comment ça va ? En ce début 2022, on est encore un peu dans les soldes. Comment ça se passe de votre côté ?
Alors, les soldes, d'un avis général, ont mal débuté et sont difficiles. Je vous rappelle qu'en 2019, elles avaient démarré en plus tôt. Elles avaient démarré un 8 janvier, il me semble, et elles avaient duré 6 semaines. Et là, elles ont démarré un 12 janvier pour ne durer que 4 semaines. Donc, c'est un peu curieux qu'en période de Covid, où il y a eu quand même des accumulations de stocks après différents confinements, différentes fermetures administratives. Il y a des stocks qui sont beaucoup plus importants, donc qui demandent à être écoulés. Et là, on a une période en plus qui est plus courte en termes de soldes. Et le pouvoir d'achat est érodé et l'impact du télétravail est très important sur la fréquentation dans les boutiques. Tout le monde le remarque. Le télétravail a impacté de façon très importante le résultat des soldes. On peut noter, puisque la Fédération nationale de l'habillement se tient très au fait de la situation de ses adhérents à travers différents sondages, que il y a eu sur janvier 2022 là une perte d'au moins 30% hein, si on compare à une période pré-Covid, une période où on ne parlait absolument pas du Covid, soit 2019.
Et donc voilà. C'est étrange que les soldes soient réduites à un moment où on aurait peut-être besoin qu'elles soient rallongées.
Oui, mais alors maintenant, vous savez, on va travailler en bonne intelligence parce que les indépendants vont évidemment prendre peut-être des fins de série, pour alléger un peu leur stock, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a une trésorerie qui est exsangue, il y a des problèmes. Il faut que les boutiques indépendantes de mode puissent continuer à travailler. Donc chacun va y aller de sa propre organisation.
Pierre, vous êtes donc un designer de mode et vous êtes membre de la Fédération nationale de l'habillement. Est-ce que vous êtes le seul dans votre cas? Parce que généralement, on a plutôt des indépendants multimarques. Quelle est votre histoire avec la fédération?
Alors, c'est vrai que ma situation est assez particulière au sein de la Fédération nationale de l'habillement, mais ça vous montre aussi qu'il y a des profils qui sont différents, comme il y a aussi différentes typologies de commerce, hein, boutique multimarque, boutique monomarque. Donc il y a une diversité au niveau de la mode. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à être créateurs de mode au sein de la FNH, mais encore une fois, ça montre sa diversité.
Et pour vous, quel est l'intérêt d'intégrer la Fédération nationale de l'habillement aujourd'hui?
Pour être allé à l'Institut français, à l'inauguration de l'Institut français de la mode, on a le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a bien insisté sur le triptyque, si vous voulez, création, production et vente. Donc il ne faut pas séparer ces trois volets. Donc aujourd'hui, vous avez aussi la fédération de la haute couture, vous avez la fédération du syndicat de vêtements masculins, c'est la fédération du prêt-à-porter féminin. Tout ça sont des synergies qui seraient bon à un moment donné de rapprocher. Et on y réfléchit d'ailleurs. On y réfléchit. Donc je pense que la tendance aujourd'hui n'est plus à séparer des secteurs de la mode. Comme ça, entre création, production et vente, mais d'essayer justement de jeter des passerelles entre ces différents secteurs.
Vous avez un rôle particulier dans cette Fédération nationale de l'habillement?
Alors moi, je suis administrateur
Oui.
au bureau, donc on discute des priorités à apporter aux indépendants, type par exemple fonds de solidarité. Moi, je suis indépendant, hein, designer indépendant, donc je cotise aussi, j'ai ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié. Donc on se bat aussi, par exemple, pour que les indépendants puissent avoir des abattements de leurs charges sociales qui soient conséquentes suite à l'année blanche qu'ils ont pu traverser en 2020, par exemple, et 2021. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont, pour un détaillant multimarque, aussi importantes que pour un créateur de mode s'il veut continuer son travail.
Et aujourd'hui, Pierre, le commerce indépendant en Île-de-France, est-ce que vous avez une vision un peu sur les adhérents à la FNH? Comment ça se passe aujourd'hui le marché?
On est en train, comment dire, de fidéliser à nouveau les adhérents FNH Île-de-France. Ça va être un travail de longue haleine parce qu'il faut réunir les adhérents entre eux. Il faut leur montrer qu'en étant unis, ben, on est plus fort. La FNH a montré un autre visage ces derniers mois, cette dernière année, et je pense que à un moment donné, ça va payer.
Ok, très bien. Vous avez des projets particuliers pour 2022?
Alors pour 2022, nous on va alors au niveau personnel, nous allons continuer à travailler le marché américain, le marché asiatique pour l'instant on va attendre un peu parce que c'est très fermé. Là c'était très les salons c'était très difficile parce que les grands acheteurs internationaux ne sont pas venus. Hein, c'est pas évident de vendre de la mode par le canal digital. Que ça, on va reprendre les choses petit à petit. Et puis au niveau de la FNH, ça va être continuer à se battre pour que les intérêts des indépendants, des commerçants indépendants qui ont des boutiques de mode puissent être défendus et puissent vraiment continuer leur métier. Ça, c'est la priorité.
Super, Pierre, un petit conseil pour le mot de la fin. Si demain vous aviez un futur commerçant qui vous dit voilà, j'aimerais ouvrir une boutique de mode à Paris, qu'est-ce que vous lui diriez?
Alors, je lui dirais d'abord de bien réfléchir à son produit, d'essayer de le cerner au maximum, de ne pas partir dans tous les sens, donc de choisir sa cible, de pas forcément partir sur des prix qui soient du moyen ou bas de gamme, mais au contraire de privilégier la qualité. Et de toute façon, ça, c'est un enseignement de la crise sanitaire que nous avons traversée, c'est qu'on va aller davantage vers du qualitatif et beaucoup moins vers du quantitatif, et que les indépendants des boutiques de mode ne s'y sont pas trompés, si vous voulez, même s'ils sont surstockés parce qu'il y a eu des conditions si particulières et si difficiles ces 2 dernières années, ils ont appris aussi à moins acheter, sans doute, et à acheter mieux. Et quitte à ce que le phénomène de solde devienne un jour obsolète. Donc je dirais à cette personne, voilà, qu'elle choisisse bien son produit et puis qu'elle se tourne, qu'elle réfléchisse à ce qu'on appelle l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit maintenant se vend en même temps sur le web et en même temps en physique, et en même temps par téléphone, en même temps par WhatsApp par exemple. Donc c'est pas un canot ou l'autre, c'est un canot et l'autre. Tout est uni, tout se fait en même temps aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci pour votre temps, Pierre.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.